Anton Tchekhov, l'allumette suédoise. Une cause criminelle. Le matin du 6 octobre 1885, un jeune homme, vêtu fort convenablement, se présenta dans le bureau du commissaire de police du 2e arrondissement du district de S et déclara que son maître, le sous-lieutenant de cavalerie en retraite, Mark Ivanitch Klausov, venait d'être assassiné. En faisant cette déclaration, le jeune homme était pâle et très ému. Ses mains tremblaient et ses yeux exprimaient une horreur extrême. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» lui demanda le commissaire. « Tchekhov, gérant de Klausov, agronome et mécanicien. » Le commissaire et les témoins, en arrivant sur le théâtre du crime avec Tchekhov, constatèrent ceci. Devant la demeure de Klausov stationnait une grande foule. Le bruit de l'assassinat s'était répandu avec la rapidité d'un éclair dans les environs, et comme c'était le jour de fête, les curieux avaient quitté les villages avoisinants et se pressaient devant la maison de Klausov. Un brouhaha de conversation emplissait l'air. Çà et là, on pouvait voir des figures éplorées. La chambre de Klausov était fermée, et la clé se trouvait en dedans. « Les malfaiteurs ont sans doute pénétré dans la chambre par la fenêtre, » fit observer Tchekhov, qui ne cessait de trembler. Cette fenêtre donnant sur le jardin, c'est par le jardin qu'on avait dû passer. La fenêtre avait un aspect sinistre. Un rideau vert, fané, la masquait, mais un coin de ce rideau se relevait un peu, laissant voir ce qu'il y avait à l'intérieur. « Quelqu'un a-t-il regardé par la fenêtre ?» demanda le commissaire. « Non, monsieur, personne, » dit Ephrem le jardinier, un petit vieillard à la mine de sous-officier retraité. « Qui oserait regarder, d'ailleurs ? C'est à trembler d'épouvante. »« Ah, Mark Ivanitch !» fit le commissaire avec un soupir en considérant la fenêtre. « Je te disais pourtant que tu finirais mal, je te le disais, pauvre ami, mais tu n'y faisais pas attention, et voilà. La débauche ne mène jamais à rien de bon. »« C'est à Ephrem que nous devons la découverte du crime, » dit Tchekhov. Le premier, il a eu l'idée qu'il y avait là quelque chose d'anormal. Alors, ce matin, il vient dans mon bureau et il me dit « Pourquoi est-ce que notre maître dort si longtemps? Voici une semaine qu'il n'a point quitté sa chambre. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue, et j'ai soupçonné aussitôt la triste vérité. On ne l'a pas vu depuis l'autre samedi, nous sommes à dimanche, alors 8 jours, pensez donc. « Oui, oui, pauvre ami, » soupira encore une fois le commissaire. « C'était un garçon intelligent, instruit, bon, très agréable en société, mais un débauché. Ah, que Dieu l'accueille dans le royaume céleste !» Je m'attendais à tout. Stéphane, ajouta le commissaire en se tournant vers un des témoins, monte à cheval et va tout de suite chez moi. Dis à Andrushka d'aller informer le sous-préfet qu'on a assassiné Mark Ivanitch. Toi-même, cours plus vite chez le juge d'instruction, Nikolaï Rilovitch, et prie-le de se transporter ici. Attends, je vais lui écrire un mot. Le commissaire plaça des agents autour de la maison, écrivit la lettre au juge d'instruction et se rendit chez le gérant pour y prendre le thé. Au bout d'une dizaine de minutes, il était assis sur un tabouret, cassait avec les dents un morceau de sucre et buvait du thé brûlant comme un tison. « Voilà, disait-il à Tchekhov, voilà un homme riche, favori des dieux, puis-je dire, selon l'expression de Pouchkine. Qu'est-ce qu'il est devenu? Rien. » Il s'enivrait, faisait la noce. Vous voyez le résultat, assassiné. 2 heures après, arriva le juge d'instruction, Nikolaï Ermolaïch Tchoubikov, c'est son nom. Un grand et robuste vieillard d'une soixantaine d'années a derrière lui une carrière d'un quart de siècle. Il est connu dans le district comme un homme honnête, intelligent, énergique et qui aime son métier. Avec lui va son inséparable compagnon, aide et secrétaire, Dukovski, un grand jeune homme de 26 ans. « Comment, messieurs ?» dit Tchoubikov en entrant chez Piekov et en serrant les mains à tout le monde hâtivement. « Est-il possible qu'on ait tué Mark Ivanitch ? Mais non, c'est incroyable, incroyable !»« Pourtant, c'est ainsi, » soupira le commissaire. « mon Dieu, mais vendredi dernier, je l'ai vu à la foire, à Talabalkov. J'ai bu, excusez-moi, de la vodka avec lui. » « Que voulez-vous ? » soupira encore une fois le commissaire. On soupira, on frissonna, on prit un verre de thé et l'on se dirigea vers la maison de Klausov. « Écartez-vous ! » cria le juge à la foule. En entrant dans la maison, le juge d'instruction se mit tout d'abord à examiner la porte de la chambre à coucher. Cette porte était en sapin et peinte en jaune, pas la moindre trace pouvant servir d'indication pour l'enquête. On l'ouvrit. « Je prie ceux dont la présence ici n'est pas nécessaire de se retirer, » dit le juge. Lorsque, après force crattement, la porte à grand fracas céda enfin à la hache et aux ciseaux. « Je les en prie dans l'intérêt même de l'enquête. Monsieur le commissaire, vous ne laisserez entrer personne. » Tchoubikov, son secrétaire et le commissaire, l'un après l'autre, pénétrèrent, non sans quelque hésitation, dans la chambre. Voici le spectacle qui s'offrit à leurs yeux. Devant l'unique fenêtre était placé un grand lit en bois, avec un énorme édredon dessus. Sur cet édredon chiffonné, il y avait une couverture en désordre. L'oreiller, enveloppé d'une taie en percale, traînait par terre. Devant le lit, une petite table avec une montre en argent, une pièce de 20 copecs et des allumettes ordinaires. Point d'autres meubles dans la chambre que le lit, la petite table et une chaise unique. Sous le lit, le commissaire découvrit une vingtaine de bouteilles vides, un vieux chapeau de paille et un gros flacon de 2 litres rempli d'eau de vie. Sous la table gisait une boîte couverte de poussière. Ayant embrassé la chambre d'un coup d'œil, le juge d'instruction se renfrogna et rougit. « Gredin !» dit-il en serrant les poings. « Mais où donc est Mark Ivanitch ?» demanda à voix basse Dukovski. « Mais de quoi vous mêlez-vous ? » lui dit Tchoubikov durement. « Veuillez examiner le parquet. C'est la seconde fois que le cas se présente dans ma carrière. »« Ergrev Kumitch, » ajouta-t-il en s'adressant au commissaire et en baissant la voix. « Oh, 1870 notamment, mais vous devez vous en souvenir. L'assassinat du commerçant Portretov, même procédé. » Les grenades l'ont assassiné et ont sorti le cadavre par la fenêtre. Tchoubikov s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau et tira doucement la croisée. Celle-ci s'ouvrit. Elle s'ouvre donc, elle n'était pas fermée. Il y a des traces là. Vous voyez les traces de genoux sur le rebord de la fenêtre. Quelqu'un a pénétré par là, du dehors. Il faudra bien examiner la fenêtre. « Sur le parquet, on ne trouve rien de particulier, » dit Dukovski. « Ni tache, ni égratignure, rien qu'une allumette suédoise brûlée. La voilà. » Si j'ai bonne mémoire, Mark Ivanitch ne fumait pas. Au surplus, il se servait toujours d'allumettes ordinaires, jamais de suédoises. Ce bout d'allumette peut servir comme preuve. « Oh, taisez-vous donc, je vous en prie, » interrompit le juge d'instruction avec un geste d'impatience. « Allumettes, allumettes, je déteste les têtes échauffées. Où il cherchait des allumettes, vous auriez mieux fait d'examiner le lit. » Dukovski, après l'examen du lit, déclara « Ni tache de sang ou autre, ni déchirure récente. Sur l'oreiller, des traces de dents. » La couverture est tachée d'un liquide ayant l'odeur et le goût de la bière. L'aspect général du lit donne lieu de penser qu'il y a eu lutte. Mais pas besoin de savoir de vous pour savoir qu'il y a eu lutte. Cela se voit assez. On vous demande pas ça. Au lieu de chercher les traces de lutte, vous auriez mieux fait. Hein? Une boîte est ici et l'autre n'y est pas. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on a étouffé pendant qu'il ôtait ses bottes. Il en avait à peine retiré une que... patati et patata, mais qu'est-ce qui vous a dit qu'on l'avait étouffé? Il y a des traces de dents sur l'oreiller. L'oreiller lui-même est très chiffonné et rejeté hors du lit, à 2 jarchines et demie. Vous n'êtes qu'un bavard. Allons, au jardin. Au lieu de fouiller ici, vous auriez mieux fait de regarder un peu dans le jardin. Ici, je me serais bien passé de vous. Dans le jardin, l'instruction s'occupa avant tout d'examiner l'herbe. Elle était piétinée au-dessous de la fenêtre. Un buisson de bardane qui se trouvait tout près du mur, au même endroit, était également abîmé. Dukovski eut la chance d'y découvrir plusieurs menues branches brisées et un petit morceau d'ouate. Sur les boutons de bardane, on trouva quelques fils de laine bleu marine. « Quelle était la couleur de son dernier complet ?» demanda Dukovski à Psiekov. « C'était un complet en toile jaune. »« Parfait, alors eux, alors étaient en bleu. » Quelques boutons de bardane furent coupés et très soigneusement enveloppés dans du papier. À ce moment arrivèrent le sous-préfet Arisibakev-Sivzatovski et le docteur Tutnev. Le sous-préfet dit bonjour et se mit aussitôt à satisfaire sa curiosité. Le docteur, un homme grand et très maigre, aux yeux caves, au nez long et au manteau proéminent, sans saluer personne ni rien demander, s'assit sur un tronc d'arbre, soupira et dit « Oh, les Serbes s'agitent encore. Qu'est-ce qu'ils veulent, enfin ?»« Je ne comprends pas. Oh, Autriche, Autriche, oh, c'est là ton œuvre. » L'examen intérieur de la fenêtre n'amena aucun résultat. Celui de l'herbe et des buissons les plus proches de la fenêtre fournit au contraire beaucoup d'indications utiles. Par exemple, Dukovski put poursuivre sur l'herbe une longue traînée de taches sombres qui allait de la fenêtre à plusieurs sagènes dans la profondeur du jardin. Elle se terminait par une grande tache brune sous un buisson de lilas. Et sous ce même buisson, on découvrit en outre une botte qui s'appariait justement avec la botte trouvée dans la chambre à coucher. « C'est du sang, » dit Dukovski en examinant les taches. Au mot « sang », le médecin se leva et paresseusement jeta un regard superficiel sur les taches. « Oui, du sang, » murmura-t-il. « Là, il n'a donc pas été étouffé, si c'est du sang, » dit Tchoubikov en jetant à Dukovski un coup d'œil ironique. Non, on l'a étouffé dans sa chambre, mais ici, craignant qu'il ne retrouvât la vie, on l'a frappé avec quelque instrument tranchant. La tache sous le buisson montre qu'il est resté là assez longtemps, pendant que les assassins cherchaient le moyen de le sortir du jardin. Soit, mais la botte. Mais la botte confirme encore davantage mon hypothèse, qu'on l'a tué pendant qu'il se déchaussait pour aller au lit. Il n'a réussi qu'à ôter une seule botte, tandis que l'autre, c'est-à-dire celle-ci, il ne l'avait retirée qu'à moitié. Elle est tombée ensuite d'elle-même de son pied, lorsqu'on a jeté le cadavre par terre. « Quelle perspicacité !» dit Tchoubikov dédaigneusement. « Ben voilà un moulin à parole. Mais quand apprendrez-vous donc à ne pas ennuyer le monde avec vos raisonnements? Au lieu de raisonner, vous auriez mieux fait de prendre un peu d'herbe maculée de sang pour l'analyse. » L'examen fini, les plans dressés, Les instructeurs s'en furent chez le gérant pour rédiger le procès-verbal et pour déjeuner. Tout en déjeunant, on causa du crime. « La bourse, l'argent, etc. sont intacts, » dit Choubikov. « Donc, à n'en pas douter, l'assassinat n'a pas eu le vol pour mobile. » Et il a été commis par un homme ayant de la culture, ajouta Dukovski. D'où concluez-vous cela? L'allumette suédoise me le prouve. Les paysans d'ici n'en savent pas encore l'usage. Seuls les propriétaires terriens, et encore, s'en servent. Soit dit en passant, l'assassin n'était pas seul. Il s'était mis à trois au moins, deux tenant la victime et le troisième l'étranglant. Klausov était très vigoureux et les assassins devaient le savoir. Hockman lui aurait servi sa force si par exemple il dormait. Il ne dormait pas, puisque les assassins l'ont surpris en train de retirer ses bottes. Allez, assez conjecturier, vous feriez mieux de manger. Pour moi, monsieur, dit le jardinier Ephrem en posant le samovar sur la table, c'est peut-être que Nikolushka qui a fait ça le coup-là. Oh, c'est fort possible, dit Psiekov. Qui est ce Nikolushka? C'est le valet de chambre de monsieur, répondit Ephrem. Ça peut guère être que lui. C'est un brigand, monsieur. Un ivrogne et un osseur, comme il n'y en a pas deux. C'est lui qui apportait à monsieur la vodka. C'est lui qui le mettait au lit. Et qui donc aurait pu le tuer, sinon lui? Si j'ose, oh, je vous dirais aussi qu'il s'est vanté un jour, chez le marchand de vin, de tuer monsieur. Tout cela à cause d'Alushka, à cause d'une femme. C'était la maîtresse de Nikolushka. Elle plut à monsieur, qui cela le jugea, alors bien entendu, l'autre se fâcha tout rouge. Il est maintenant à la cuisine, ivre mort, il pleure, il dit qu'il regrette monsieur, mais il ment. Pour la boulka, on peut bien se fâcher, en effet, dit Psiekov. C'est une femme de soldat, une simple paysanne, mais... C'est pas pour rien que Mark Ivanich l'appelait Nana. Elle a quelque chose qui rappelle Nana, quelque chose qui attire. Je l'ai vu, dit le je sais, dit le juge d'instruction en se mouchant dans un mouchon noir rouge. Dukovski rougit et baissa les yeux. Le commissaire commença à tambouriner avec son doigt sur la soucoupe. Le sous-préfet eut un accès de toux et se mit à fouiller dans sa serviette. Seul le médecin demeura indifférent au nom d'Akulka et de Nana. Le juge fit appeler Nikolushka. Celui-ci, un grand gaillard, à la figure longue et ravagée par la petite vérole, à la poitrine creuse, un vieux veston de son maître sur le dos, entra et salua jusqu'à terre le juge. Son visage, mal réveillé encore, portait des traces de larmes. Il était ivre et se tenait à peine sur ses pieds. « Où est monsieur ?» lui demanda Choubikov. « On l'a tué, votre haute noblesse. » Cela dit, Nikolushka se mit à cligner des yeux et à pleurer. « Oui, nous le savons, on l'a tué, mais où est-il maintenant? Où est son corps ?»« Bon, dit qu'on l'a sorti par la fenêtre et enterré dans le jardin. » Les résultats de l'instruction sont déjà connus à la cuisine. « Ce n'est pas bien. » « Dis, bon ami, où as-tu été la nuit où l'on a tué monsieur, c'est-à-dire samedi ?» Nikolushka leva la tête, tendit le cou et réfléchit. « Je sais pas, votre haute noblesse, dit-il, j'étais ivre et je me rappelle plus. »« Un alibi, » chuchota Dukovski en souriant et en se frottant les mains. « Ah, mais pourquoi y a-t-il du sang sous la fenêtre de la chambre de monsieur ?» Nikolushka leva encore la tête et réfléchit. « Réfléchis vite, » dit le sous-préfet. « Tout de suite. Oh, ce sang-là, c'est rien du tout, votre haute noblesse. J'ai tué une poule et je l'égorgeais simplement comme d'habitude. Mais la voilà qui s'échappe de mes mains et qui saute en courant. De là, ce sang. Elfrem a déposé qu'en effet, Nikolajka tue des poules chaque soir et en divers endroits, mais personne n'a encore vu une poule à moitié égorgée, courant rire à travers un jardin, bien qu'on puisse ne pas nier absolument la possibilité de ce fait. Un alibi, sourit Dukovski, et quel alibi stupide! Tu as fréquenté Anouchka? Oui. Et monsieur te l'a prise? Non, 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 c'est monsieur Psiekov qui a décidé à quelqu'un à me quitter. Et c'est à monsieur Psiekov que monsieur l'a prise. Et voilà comment les choses se sont passées. Psiekov devint confus et se mit à frotter son œil gauche. Dukovski le regarda fixement, vit son trouble et frissonna. Il aperçut sur le gérant un pantalon bleu auquel il n'avait prêté jusque-là aucune attention. Ce pantalon lui rappela les fils bleus trouvés dans les buissons de Bardane. À son tour, Tchoubikov regarda Psiekov d'un œil soupçonneux. « Tu peux t'en aller, » dit-il à Nikolajka. « Maintenant, monsieur Psiekov, permettez-moi de vous poser une question. » « Vous étiez là, sans doute, la nuit du samedi au dimanche. »« Oui, et j'ai soupé à 10 heures avec Mark Ivanitch. »« Et après ?» Psiekov se troubla et se leva de table. « Après, je ne me rappelle plus, en vérité, murmura-t-il. »« J'ai beaucoup bu ce soir-là. »« Je ne me rappelle plus où et quand je me suis endormi. »« Mais qu'avez-vous tous à me regarder ainsi ?» comme si c'était moi qui l'eusse tué. Et où vous êtes-vous réveillé? Je me suis réveillé dans la cuisine des domestiques, sur le four. Tout le monde peut en témoigner. Mais comment m'étais-je trouvé sur le four? Ça, c'est ce que je ne sais pas. Ne vous émotionnez pas tant. Vous avez connu Akulka? Il n'y a là rien de particulier. « Mais c'est après vous avoir quitté, vous, qu'elle est devenue la maîtresse de Klausov. »« Oui. Fred, apporte donc encore des champignons. Voulez-vous du thé, Ergal Kulmitch ?» Il se fit un silence lourd, pénible, qui dura environ 5 minutes. Dukovski ne quittait pas de ses yeux aigus la figure pâlie de Psiekov. Le silence fut interrompu par le juge d'instruction. Il faudra, dit-il, aller au château voir la sœur du défunt, Maria Ivanovna. Peut-être nous donnera-t-elle quelques indications. Tchoubikov et son secrétaire remercièrent pour le déjeuner et se rendirent au château. Ils trouvèrent la sœur de Klausov, une vieille fille de 45 ans, priant devant les icônes familiales. En voyant aux mains des visiteurs des serviettes et des casquettes d'uniforme, elle devint pâle. « Je vous présente avant tout mes excuses pour avoir interrompu, pour ainsi dire, votre pieuse occupation, » dit Tchoubikov avec un galant salut. « Nous venons vous prier. Vous avez sans doute appris déjà. Il y a tout lieu de craindre que monsieur votre frère n'ait été en quelque sorte assassiné. » La volonté de Dieu, vous savez, personne n'échappe à la mort, ni les tsars, ni les laboureurs. Ne pourriez-vous pas nous aider dans notre tâche par quelques explications ? Oh, ne me demandez rien, répondit Maria Ivanovna en pâlissant encore plus et en se couvrant la figure de ses mains. Non, je ne puis rien vous dire, rien, je vous en supplie, je ne puis rien. Oh non, 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 pas un mot de mon frère. Non, non, je ne dirai rien, rien. » Maria Ivanovna se mit à pleurer et sortit. Les instructeurs se regardèrent, haussèrent les épaules et se retirèrent. « Satanée femme, » dit Dukovski en quittant le château. « Elle sait quelque chose et ne veut rien dire. La bonne doit, à en juger par sa physionomie, savoir aussi quelque chose. Attendez, nous démêlerons tout. Le soir, Tchoubikov et son aide rentraient chez eux au clair de lune. Assis dans un char à banc, ils réfléchissaient aux événements de la journée. Tous les deux étaient fatigués et silencieux. Tchoubikov ne parlait généralement jamais en route et le bavard Dukovski se taisait pour faire plaisir à son patron. Pourtant, à la fin, il n'y tint plus. Que Nikolajka ait participé au crime, non dubitandum est, dit-il. Rien que son museau indique assez ce que c'est que ce monsieur. Son alibi le livre pied et poilier. Mais il est indubitable, d'autre part, qu'il n'a pas été l'instigateur de l'affaire. Il n'a été qu'un instrument imbécile et payé. Vous le voyez, croyez pas? Le modeste Psiekov joue dans l'affaire à son tour un rôle considérable. Son pantalon bleu, son trouble, la nuit passée sur un four à cause de sa peur après l'assassinat, son alibi et Akulka. Non, mais un vrai moulin, parole, allez, allez, toujours. À vous entendre, est assassin quiconque a connu Akulka. Eh, jeune homme, vous devriez encore tâter un bibon et non débrouiller des affaires. Vous avez, vous aussi, fait la cour à Akulka? Et vous êtes donc aussi pour quelque chose dans cette affaire? Mais vous avez eu, vous aussi, Akulka pour cuisinière pendant un mois. Mais je ne dis rien. La nuit du samedi au dimanche, je vous ai vu. J'ai joué aux cartes avec vous. Sans quoi, je vous aurais soupçonné, soyez tranquille. Il ne s'agit pas d'Akulka, mais de ce mesquin sentiment vilain et lâche qui est l'amour-propre. Le modeste jeune homme n'a pas à souffrir de se voir supplanté. Et il a voulu se venger. Puis, ses grosses lèvres en disent long sur sa sensualité. Vous vous rappelez son air lorsqu'il a comparé la Kouchka à Nadagna? Qu'il brûle de passion, le gredin, c'est hors de doute. En résumé, amour propre blessé et passion non satisfaite. Cela suffit pour pousser à l'assassinat. Donc, nous en tenons déjà deux. Mais qui est le troisième? Nikolajka et Psiekov maîtrisaient le défunt, mais qui l'a étranglé? Psiekov est timide et poltron. Les Nikolajka ne savent pas étouffer avec les oreilles et ils travaillent avec des pioches, des haches. Il y en avait donc un troisième qui étouffait, mais qui était-ce? Dukovski enfonça son chapeau jusqu'aux yeux et se mit à réfléchir. Il garda le silence jusqu'à ce que le char à banc se fût arrêté près de la maison du juge d'instruction. « Eureka !» dit-il en outrant et en quittant son pardessus. « Eureka, Nikolaï Nemolmaïtch ! Oh, je m'étonne que cela ne soit pas venu à l'esprit plus tôt. Savez-vous qui est le troisième ? Oh, laissez-moi tranquille, le souper est servi, justement. Allez, asseyez-vous à table. » Le juge et Dukovski s'attablèrent. Dukovski se versa un petit verre de vodka, se leva, se redressa, et les yeux brillants, il dit, « Eh bien, sachez donc que le troisième, le complice de Psiekov et de Nikolajka, l'étouffeur était une femme. Oui, oui, j'ai nommé la sœur du défunt Maria Ivanovna. » Tchoubikov avala sa vodka de travers, s'ébroua et regarda fixement Dukovski. « Vous, votre tête, vous voulez pas malade ?»« Parle-moi du monde. » »« Bon, mais soit je suis fou, bien. Pourtant, comment expliquerez-vous son trouble à notre arrivée ?»« Ce refus de dire quoi que ce soit, ce n'est rien, cela ?»« Soit. Mais rappelez-vous dans quelles larmes, quels termes elle vivait avec son frère ?» Elle le haïssait, elle, une croyante, une vieille dévote, et lui, un impie, un débauché. De là, cette haine pour lui. Il avait, dit-on, réussi à lui persuader qu'il était un ange de Satan. Il faisait du spiritisme en sa présence. Eh bien, qu'est-ce que cela prouve? Mais vous n'y êtes pas. Elle, croyante de la vieille tradition orthodoxe, elle a tué son frère par fanatisme. Elle a arraché une mauvaise herbe, châtié un débauché. Elle a, de plus, délivré le monde de l'Antéchrist. C'est là un grand acte religieux dont elle se glorifie. Oh, vous ne connaissez pas ces vieilles filles, ces sectaires ultra-orthodoxes. Mais lisez Dostoïevski, lisez ce qu'écrivent Ilieskov, Petchelski. C'est elle, c'est elle qui étranglait. Oh, la femme côteleuse! Mais n'est-ce pas pour nous dépister qu'elle se tenait devant ces icônes lorsque nous sommes entrés? Je ferai semblant de prier, pensait-elle. Ils croiront que je suis tranquille et que je ne les attends pas. Mais c'est le système de tous les novices du crime. Mon cher Nicolas Zemolaïtch, donnez-moi cette affaire. Laissez-moi la mener à sa fin. Cher Nicolas Zemolaïtch, je l'ai commencée, laissez-moi la finir. Tchoubikov hocha la tête et se renfrogna. « Oh, je me débrouillerai bien moi-même, dit-il. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Écrire sous ma dictée, voilà votre affaire. » Dukovski rougit, fit claquer la porte et sortit. « Très intelligent, le coquin, très fort, » murmura Tchoubikov en le suivant du regard. « Mais il s'emballe trop. » Il faudra lui acheter un porte-cigarette, à la foire, en cadeau. Le lendemain, on amena devant le juge d'instruction un jeune paysan de Klausovka, avec une grosse tête et un bec de lièvre. Ce garçon, qui déclara être le berger d'Anilka, fit une très intéressante déposition. « J'étais un peu gris, dit-il. J'étais resté jusqu'à minuit chez ma commère. En rentrant, if que j'étais, j'ai voulu me baigner dans la rivière. Je suis rentré dans l'eau. Tout à coup, je vois sur la digue deux hommes qui portent quelque chose de noir. Tiou ! Leur criai-je. Alors ils prirent peur et toute la force de leurs jambes s'enfuirent vers les potagers de Makalevo. Je vais être dué par Dieu si ce n'est pas M. Klausov qu'on portait. Le même jour, dans l'après-midi, Psiekov et Nikolashka furent arrêtés et mis en prison dans le chef-lieu du district. 12 jours se passèrent. C'était un matin. Le juge d'instruction, Nikolaï Ermolaïtch, était chez lui, assis à une table recouverte d'un tapis vert et feuilletant l'affaire Klausov. Dukovski, tel un loup dans sa cage, marchait de long en large dans la pièce. « Vous êtes convaincu de la culpabilité de Nikolashka, de Psiekov, disait-il, en tiraillant nerveusement sa barbe juvénile. Mais pourquoi ne voulez-vous donc pas admettre celle de Maria Ivanovna? Il vous faut des preuves, quoi. »« Ne dis pas que je ne sois pas convaincu. »« Je suis convaincu, mais j'ai peine à croire. » Les preuves manquent, il n'y a contre elle que des présomptions tirées de la philosophie, fanatisme, etc. Ah oui, vous voudriez une cognée, vous, et des draps ensanglantés. Juriste, eh bien, je vous vais en fournir des preuves, moi. Vous cesserez de négliger le côté psychologique de l'affaire. Votre Maria Ivanovna ira en Sibérie, j'en réponds. Si la philosophie ne vous suffit pas, j'ai quelque chose de plus matériel. Cela vous montrera combien un philosophe a raison. Laissez-moi seulement faire une tournée dans les environs. Mais qu'est-ce que c'est, votre preuve? C'est l'allumette suédoise, monsieur. Vous l'aviez oubliée, moi non. Je saurais qu'il avait allumé dans la chambre du défunt. Et ce n'est certainement pas Nikolashka ni Psiekov chez lesquels on n'a pas trouvé d'allumette au cours des perquisitions. C'est donc le troisième, c'est-à-dire Maria Ivanovna. Et je le prouverai. Laissez-moi faire seulement une tournée dans le district. Laissez-moi me renseigner. Eh bien, soit. Asseyez-vous, procédons aux interrogatoires. Dukovski s'assit et fourra son long nez dans les papiers. Intronisez Nikolska Tetichkov, ordonna le juge d'instruction. On introduisit Nikolashka. Il était pâle et maigre comme un éclat de bois. Il tremblait. Tetichkov, dit Tchoubikov. En 1879, vous étiez condamné par le juge du premier arrondissement pour vol à l'emprisonnement. En 1882, vous avez subi la même condamnation. Nous savons tout. La figure de Nikolashka exprima la stupéfaction. L'omniscience du juge d'instruction l'étonnait. Mais bientôt son étonnement fit place à une douleur extrême. Il se mit à sangloter, demandant la permission d'aller se débarbouiller et se remettre. On l'emmena. « Introduisez Psiekov, ordonna le juge d'instruction. On introduisit Psiekov. Le jeune homme avait beaucoup changé durant les derniers jours. Il avait maigri et pâli, ses yeux exprimaient une morne apathie. « Asseyez-vous, Psiekov, dit Tchoubikov. « J'espère que cette fois, vous serez raisonnable et que vous ne mentirez plus comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Puisqu'ici, en effet, vous avez nié, malgré l'abondance des preuves qui vous accablent, votre participation à l'assassinat de Klausov. Cela est imprudent. L'aveu a atténué la peine. Si vous n'avouez pas aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Alors, racontez-nous. »« Je ne sais rien. » « Et vos preuves, je ne les connais pas, » dit Psiekov à voix basse. « Eh bien, permettez-moi alors de vous exposer comment l'affaire s'est passée. Samedi soir, vous étiez avec Klausov dans sa chambre à coucher et buviez avec lui de la vodka et de la bière. » Dukovski enfonça son regard dans la figure de Psiekov et le dévisagea durant tout le monologue. « Nikolashka vous servait. » Et à minuit, Mark Ivanitch vous a dit qu'il désirait se coucher, car il se couchait toujours à minuit. Comme il ôtait ses bottes et vous donnait ses ordres pour le lendemain, vous et Nikolashka, sur un signe convenu d'avance, avez saisi votre maître par les épaules et l'avez renversé sur le lit. L'un de vous s'assit sur sa tête, l'autre sur ses jambes, et à ce moment entra une femme que vous connaissez, vêtue de noir et qui avait arrêté avec vous, par avance, son rôle dans le scrim. Elle saisit l'oreiller et se mit à étouffer la victime. Au cours de la lutte, la bougie s'éteignit. La femme tira de sa poche une boîte d'allumettes suédoises et ralluma la bougie. N'est-ce pas, hein ? Je lis sur votre visage que je dis la vérité, mais continuons. Après l'avoir étranglé et vous êtes assuré qu'il ne respirait plus, vous et Nikolashka l'avez sorti par la fenêtre et déposé près des buissons de bardane. De crainte qu'il ne se ranimât, vous l'avez frappé avec quelque chose de tranchant. Ensuite, vous avez transporté sous le buisson de Builaïla, puis vous êtes allé, après avoir franchi la haie, le long de la route jusqu'à la digue. Et là, un moudjik vous a effrayé. Mais qu'avez-vous donc ? Psiekov, pâle comme un linge, s'est élevé et chancelait. « Oh, je suffoque, dit-il. Soit j'avoue, mais laissez-moi sortir, je vous en prie. » On emmena Psiekov. « Oh, enfin, tout de même, il a fini par avouer, dit Tchoubikov, en dégourdissant ses membres avec délices. Il s'est trahi, mais l'ai-je assez accablé ? Et la femme en noir, il ne l'allume pas non plus, dit Dukovski en riant. Avec cela, l'allumette suédoise me tracasse. Oh, je n'y tiens plus, je m'en vais. Au revoir. » Dukovski mit sa casquette et s'en alla. Tchoubikov commença l'interrogatoire d'Akulka. Celle-ci déclara qu'elle ne savait rien du tout. « Mais je n'ai fauté qu'avec vous, jamais avec un autre, » dit-elle, en jouant de la prunelle. Vers 6 heures du soir entra Dukovski. Il était plus ému qu'il ne l'avait jamais été. Ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas déboutonner son pardessus. Ses joues étaient colorées, il était visible qu'il portait les nouvelles. « Veni, vidi, vixi » dit-il en entrant précipitamment dans le cabinet de Tchoubikov et en se laissant tomber dans un fauteuil. « Je jure sur mon honneur, oh, que je commence à croire à mon génie. Écoutez bien, bien ceci, que le diable vous emporte. Écoutez et admirez, patron, c'est risible et c'est triste. » Nous en avons déjà 3, n'est-ce pas bien? Je viens d'en trouver un 4e, ou plutôt 1/4, car c'est encore une femme. Et quelle femme? Oh, je donnerais 10 ans de ma vie pour pouvoir toucher une seule fois à ses épaules. Mais écoutez, je suis allé à Klusovka. J'en ai fait le tour, entrant dans toutes les boutiques, chez tous les épiciers, chez tous les marchands de vin, demandant partout des allumettes suédoises. Et partout, on me répondait, nous n'en avons pas. 20 fois, je perdis l'espoir et 20 fois, je repris confiance. J'errais toute la journée et il y a à peine 1 heure, j'ai trouvé ce que je cherchais à 3 verstes d'ici. On me donne un paquet contenant 10 boîtes. Mais il en manque une. Alors tout de suite, moi, mais qu'est-ce qui a acheté cette boîte? C'est une telle, elle aime ses allumettes pour le bruit qu'elles font. Mon cher petit pigeon, Nikolaï Ermolaïtch, ce que peut faire parfois un homme expulsé du séminaire et qui a lu beaucoup Gaborio, c'est extraordinaire. Oh, dès aujourd'hui, je commence à avoir de l'estime pour moi, ouf! Eh bien, allons! Mais où donc? Mais chez elle, chez la 4e complice. « Dépêchons-nous, car je brûle d'impatience. »« Savez-vous qui c'est ?»« Devinez un peu. »« Mais c'est la jeune femme de notre connaissance, commissaire de police. »« Le vieux Herrgraf Kouzmitch. »« Olga Petrovna. »« Voilà qui c'est. »« C'est elle qui a acheté cette boîte d'allumettes suédoises. »«
Vous es fou !»
Mais c'est clair, cela. D'abord, elle fume. Ensuite, elle était plongée jusqu'aux oreilles dans un violent amour pour Klausov. Il a dédaigné son amour, et cela pour une akulka, vengeance. Maintenant, je me souviens de les avoir trouvés un jour à la cuisine, derrière un paravent. Elle disait sa passion à Klausov, qui fumait et lui lançait la fumée dans la figure. « Mais partons, dépêchons-nous. Il commence à faire nuit, allons. »«
Non, je ne suis pas encore fou au point de déranger une honnête femme au milieu de la nuit pour un vaurien de ton acabit. »«
Une honnête femme? Mais vous êtes une chiffre, mon cher, et non un juge d'instruction. Je n'ai jamais osé vous injurier, mais vous m'y forcez aujourd'hui. Une chiffre, une robe de chambre. Allons, Nikolaï Moravitch, mon petit pigeon, je vous en prie. » Le juge fit un geste de dénégation et cracha. « Je vous en prie, non pour moi, mais pour la justice. Je vous en supplie, enfin. Faites-moi ce plaisir, ce sera le premier et le dernier. » Dukovski s'agenouilla devant son chef. « Nikolaï Ermolaïtch, soyez gentil. Vous me traiterez de lâche, de canaille, si je me trompe au sujet de cette femme. C'est que l'affaire est extraordinaire, c'est un roman. » Votre gloire se répandra dans toute la Russie. On vous fera juge d'instruction pour les affaires particulièrement importantes. Comprenez donc cela, vieillard raisonnable. » Le juge fronça les sourcils et d'un geste indécis tendit la main vers son chapeau. « Que le diable t'emporte, allons » fit-il. Il faisait déjà nuit lorsque le char à banc du juge d'instruction s'arrêta devant le perron du commissaire de police. « Mufles que nous sommes, » dit Tchoubikov en touchant la sonnette, « nous dérangeons les gens. »
Bon, ce n'est rien, c'était rien. Allez, sonnez. Nous dirons qu'un ressort de notre voiture s'est cassé. Sur le seuil, Tchoubikov et Dekovski se trouvèrent devant une grande et assez forte femme d'environ 23 ans, aux cheveux et aux sourcils noirs comme du jais, aux lèvres grasses et rouges. « Oh, très aimable à vous, » dit-elle avec un sourire cordial. « Vous arrivez juste pour le souper. Mon Erzgrave Kumitsch n'est pas là. Il s'est attardé chez le pape. Mais nous vous en passerons. Asseyez-vous. Vous revenez d'une enquête ?»«
Oui, nous avons eu un petit accident. Un ressort de ma voiture s'est cassé, » dit Tchoubikov en entrant dans le salon et en s'asseyant dans un fauteuil.
« Brusquez, assommez-la de votre question, » lui souffla Dukovski à l'oreille. « Assommez-la. »
« Mais un ressort s'est cassé, alors, oui, nous sommes venus ici. »«
Mais assommez-la, vous dis-je, comprendra si vous traînez de cette façon. »«
Alors parle-toi-même et laisse-moi tranquille. » murmura Tchoubikov en se levant et en allant à la fenêtre. « Je ne puis pas. C'est toi qui as imaginé cette affaire, eh bien, tire-t'en maintenant comme tu pourras. »«
Oui, un ressort, » commença Dukovski en s'approchant de la femme du commissaire de police et en fronçant son grand nez.
« Non, nous ne venons pas pour souper ni pour voir Erzgrave Kumitsch. Nous venons pour vous demander, madame, « où se trouve Mark Ivanitch que vous avez assassiné ?»«
Comment ? Quel Mark Ivanitch ?» bégaya la femme du commissaire, et son visage instantanément s'empourpra. « Je ne comprends pas. »«
Je vous le demande au nom de la loi. Où est Klarouzov ? Nous savons tout. »«
Mais par qui ?»
demanda à voix basse la femme du commissaire, incapable de supporter le regard de Dukovski. Veuillez nous dire où il est.
Mais comment savez-vous qu'il est ici? Qui vous l'a dit?
Nous savons tout. Je vous parle au nom de la loi. Le juge d'instruction, encouragé par le trouble de la femme du commissaire, s'approcha d'elle et dit « Dites-nous où il est, et nous nous en irons. Autrement, nous... »
« Mais quel besoin avez-vous de le savoir ?»«
À quoi bon ces questions, madame ? Nous vous demandons de nous dire où il est. Vous tremblez, vous êtes troublée. Oui, il a été assassiné, et assassiné par vous. Vos complices vous ont trahi. » La femme du commissaire pâlit.
« Allons, » dit-elle à voix basse en tordant ses mains. « Il est caché, chez moi, dans le pavillon des bains. » « Mais pour Dieu, ne dites rien à mon mari, je vous en supplie, il ne survivrait pas à ce coup. »
La femme du commissaire prit au mur une grande clé et conduisit ses visiteurs dans la cour. Dehors, il faisait nuit et une petite pluie tombait. Tchoubikov et Dukovski suivaient leur hôtesse, marchant dans l'herbe haute, respirant le parfum du chanvre sauvage et l'odeur des eaux ménagères qui clapotaient sous leurs pieds. La cour était grande. Maintenant, on enfonçait dans la terre labourée. Des silhouettes d'arbres surgirent dans les ténèbres, et entre les troncs apparut une petite maison à la cheminée penchée.
« C'est le pavillon des bains, » dit la femme du commissaire. « Mais je vous en supplie, ne dites rien à personne. »
S'étant approchés du pavillon, Tchoubikov et Dukovski virent à la porte un énorme cadenas.
« Préparez la bougie et les allumettes !» chuchota le juge d'instruction à son secrétaire.
La femme du commissaire ouvrit la porte et fit entrer les visiteurs dans le pavillon. Dukovski frotta une allumette et éclaira la première salle. Là, au milieu, se dressait une table, sur laquelle, à côté d'un petit samovar rondelet, il y avait une soupière avec du potage au chou refroidi et les restes d'une sauce. Dans la salle suivante, une autre table supportait un grand plat avec un jambon, un flacon de vodka, des assiettes, des couteaux, des fourchettes. Mais où est donc l'assassiné ? Demanda le juge d'instruction.
Il est tout en haut, sur la première planche, murmura la femme du commissaire, toute pâle et tremblante.
Dukovski, la bougie à la main, grimpa les marches jusqu'en haut. Là, il découvrit un long corps humain, couché sur un grand édredon et immobile. Le corps faisait un léger bruit avec son nez.
« Mais on se moque de nous, sapristi !» s'écria Dukovski. « Ce n'est pas lui. C'est quelque imbécile vivant. Et vous, là, qui êtes-vous ? Que le diable vous emporte !»
Le corps aspira l'air en sifflant et remua. Dukovski le heurta du coude. Le corps leva les mains, se tendit, souleva la tête.
« Qui est là ?» demanda une voix de basse, lourde et enrouée. « Qu'est-ce que tu veux ?»
Dukovski approcha la bougie du visage de l'inconnu et poussa un cri. Dans le nez écarlate, dans ses cheveux ébouriffés et non peignés, dans ses moustaches noires comme du jais, dont une gaillardement retroussée, pointait vers le plafond, il avait reconnu le sous-lieutenant Klausov.
« Vous, Mark Ivanitch, impossible !»
Le juge d'instruction regardait en haut et restait figé sur place.
« Oui, c'est moi, et vous ? Oh, c'est vous, Dukovski ! Mais que diable venez-vous faire ici ? Et là, en bas, quel autre museau encore ? Oh, mes petits pères, le juge d'instruction ! Mais par quel enchaînement de circonstances vous trouvez-vous ici ? »
Klausov descendit précipitamment les marches et étreignit Tchoubirov dans ses bras. Olga Petrovna s'esquiva par la porte.
« Par quel hasard ! Buvons, sapristi ! Tratatitatatom, buvons ! Mais qui vous a conduit ? Mais quand avez-vous su que j'étais ici ? D'ailleurs, sans point d'importance, les buvons !»
Klausov alluma une lampe et remplit trois petits verres de vodka.
« Mon cher ami, je ne te comprends pas !» fit le juge en écartant les bras d'un geste de stupéfaction. « Est-ce toi ou un autre ?»« Laisse donc, tu veux faire de la morale inutile. Jeune Dukovski, vite ton verre. Passons donc, ami, cette vie gaiement. Mais qu'avez-vous à me regarder ? Buvez !»«
Mais tout de même, je ne comprends pas ce que tu fais ici, » dit le juge, en vidant machinalement son verre.
« Mais pourquoi resterai-je pas ici, si j'y suis bien ?»
Klausov vida son verre et mangea un morceau de jambon.
« Ben, si, comme tu vois, chez la femme du commissaire. Dans un trou perdu, comme un diable. Et bois. J'ai pitié d'elle, ami. J'en ai pitié, et voilà que je demeure ici, dans un pavillon, abandonné, comme un ermite. Je m'en piffe, alors la semaine prochaine, je compte partir. J'en ai assez, comme cela. »«
Incroyable !» fit Dukovski.
« Qu'est-ce qu'il y a d'incroyable là-dedans ?»«
Incroyable, mais pour Dieu, mais comment votre botte s'est-elle trouvée dans le jardin ?»«
Quelle botte ?
Ben, nous avons trouvé une botte dans votre chambre à coucher et l'autre dans le jardin. »«
Pourquoi voulez-vous savoir cela ? C'est pas votre affaire. »« Mais buvez donc, diable, puisque vous m'avez réveillé, buvez donc. » Une intéressante histoire, mon ami, que celle de cette botte. Je voulais pas aller chez Olga, j'étais un peu gris, et puis je voulais pas. Alors elle arrive là, sous ma fenêtre, et se met à me gronder. Mais comme les femmes savent le faire, en général, et moi, un peu gris, et sans bien comprendre ce que je faisais, j'ai laissé sur elle, lancé sur elle ma botte. Je t'apprendrai à grogner, quoi. Elle entra par la fenêtre, alluma la lampe et se mit à taper sur moi. Puis lorsqu'elle m'a suffisamment rossé, elle m'emmène ici et m'enferme. Alors, je m'en piffe maintenant. Amour, vodka et mangeaille. Mais où allez-vous ? Tchoubikov, où vas-tu ?
Le juge d'instruction cracha et sortit. Derrière lui, tête basse, marchait Dukovski. Tous les deux, silencieux, montèrent sur leur char à banc et s'en allèrent. Jamais la route ne leur avait semblé aussi longue et ennuyeuse. Tous les deux se taisaient. Tchoubikov, durant toute la route, tremblait de colère. Dukovski cachait sa figure dans le col de son pardessus, comme s'il craignait que l'obscurité et la fine pluie qui tombait ne vissent la honte peinte sur son visage. Au retour, le juge d'instruction trouva chez lui le docteur Tuneff, qui, assis à une table, soupirait profondément et feuilletait la Niva. Quelles histoires dans le monde, dit-il en allant au devant du juge d'instruction et en souriant tristement. L'Autriche fait encore, tu sais, et Gladstone aussi, en quelque sorte. Tchoubikov jeta son chapeau sous la table et tressaillit. Squelette du diable, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit 1000 fois de me laisser la paix avec ta politique. Au diable, la politique. Et toi, ajouta Tchoubikov en se tournant vers Dukovski, et toi, je te pardonnerai jamais de ma vie. Mais l'allumette suédoise, pouvais-je donc savoir? Étrangle-toi avec ton allumette, décampe, et plus vite que cela, ou je ferai de toi le diable. C'est quoi? Va-t'en. Dukovski soupira, prit son chapeau et sortit. Je vais me griser, décida-t-il une fois dans la rue. Et il s'en alla tristement au cabaret. La femme du commissaire de police, de retour des bains, trouva au salon son mari. « Qu'est-ce que le juge d'instruction venait faire chez nous ?» lui demanda-t-il. « Oh, il avait te dire qu'on avait retrouvé Klausov. Il n'a pas été assassiné du tout, il est sain et sauf. Et imagine-toi, on l'a retrouvé chez une femme mariée. » Mark Ivanovitch, Mark Ivanitch, soupira le commissaire en levant les yeux au ciel. Je te disais bien que la débauche ne mènerait à rien de bon. Je te le disais bien, tu voulais pas m'écouter.